Alors bienvenue, nous sommes en petit comité. Bienvenue pour cette première journée de 4 jours de rencontres, débats, conférences sur la problématique de la préservation des ressources en eau, qui s'inclut dans les rencontres patrimoine organisées par le pays en préparation notamment de la candidature du pays au label Pays d'art et d'histoire. Donc en association avec Poésie des Fontaines. Le lien sur la thématique est assez évident, comme vous en conviendrez. Donc là, on va imaginer qu'on est dans une émission de radio, hein, puisqu'on est peu nombreux. Et si je parle au micro, c'est que le pays a souhaité que l'on enregistre grâce à la présence de Johan, de CFM, ses ateliers, débats, conférences. Donc je ne sais pas si je dois présenter Michel Soulier, que presque tout le monde connaît, qui est président de la Société de spéléologie et d'archéologie de Caussade, et qui va nous faire cette première conférence. Christian Tchoke, qui est avec nous, contribuera à animer le débat. Et mon ami Victor Cohen-Adria, qui ne connaît, je crois, absolument rien à notre sujet, qui est un ami, qui est écrivain, professeur de cinéma, et qui fera notre monsieur loyal, notre candide, pour poser deux, trois questions dans la soirée un peu incongrues. Voilà. Avec le micro, il les posera. Voilà, alors je vais donner tout de suite la parole à Michel pour sa présentation.
Bien, bonsoir à tous. Donc, si la technique nous suit, je pense que on va pouvoir commencer. Alors, dès que je vois tout ce matériel, ça me fait un petit peu peur. Voilà, donc nous sommes ici à la première diapositive pour vous informer un petit peu à quel endroit j'ai pioché mes informations. C'est nécessaire, je crois, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, sachant quand même que nous avons travaillé depuis très longtemps sur les eaux souterraines karstiques à l'est du Tarn-et-Garonne. Donc on va d'abord situer un petit peu dans le petit bout de Tarn-et-Garonne dans lequel va se situer notre. Donc vous avez un plus foncé, donc alors je ne sais pas comment vous le voyez, un marron-rouge, la partie calcaire qui nous intéresse particulièrement et qui en gros situe les calcaires du Jurassique et les calcaires marins. Donc, ils se sont formés sous régime d'eau salée. En ce qui concerne la partie plus claire, il s'agit des calcaires lacustres, de ce qu'on appelle les calcaires du Quercy blanc. Donc, nous, au niveau spéléo, ce qui nous intéresse le plus sont les calcaires marins, donc qui se développent entre Bruniquel, Sept-Fons, voilà, Saint-Antonin et Caylus. Voilà, voilà en gros en ce qui concerne les principales villes. Donc, il s'agit de notre secteur d'activité. Donc, pour commencer, un petit rappel du fonctionnement simplifié, bien sûr, d'un système karstique, d'un karst. Alors, le mot karst vient d'origine de l'ex-Yougoslavie. Dès qu'on passait l'Italie, on arrivait en Yougoslavie. Et là, du côté de Trieste, se développe le karst, pays calcaire. Ce nom est devenu un nom générique pour définir tous les massifs calcaires du monde entier. Donc, un massif karstique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, enfoncé, on a une couche calcaire. Tiens, les couleurs ne sortent pas tout à fait les mêmes. Au-dessus, en vert, vous avez une petite couche de surface, couche végétale. Et tout à fait sur la partie droite, le plus souvent, on a une zone imperméable. Alors, ça se passe assez souvent dans nos régions du Quercy. L'eau va s'infiltrer au niveau du contact entre la couche étanche et la couche calcaire va rentrer sous terre. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'eau peut s'infiltrer par un certain nombre de micro-fissures, de cassures, ce que l'on appelle l'épicarste, dont l'eau va rentrer au niveau de la perte, ou alors par des infiltrations diffuses sur toute la surface du karst. Et ça, je crois qu'il faut le retenir parce que dans notre région, on voit peu de pertes. Je parle côté Saint-Antonin-Caylus, il y a peu de pertes de surface et les infiltrations se font surtout par ces infiltrations diffuses sur la microfissuration. Donc, on a d'abord une zone de circulation dite verticale où l'on rencontre essentiellement des puits qu'il faut équiper, souvent avec des cordes, et progresser donc verticalement, technique un petit peu particulière. Puis, une zone de circulation horizontale, toujours plus ou moins horizontale bien sûr, où se développent les rivières souterraines. Et tout ça pour atterrir évidemment à la sortie, c'est-à-dire à la source. Vous avez une zone bleue, alors c'est symbolique, hein. Une zone bleue, c'est une zone qui est noyée, plus ou moins noyée, et plus on s'enfonce, plus elle est noyée, bien entendu, où se développe quand même un réseau karstifié parcouru par des circulations d'eau. Alors quand on cherche de l'eau, on a très peu de chances quand même depuis la surface de tomber sur une de ces circulations parce qu'on peut passer, mettons, par un forage à 1 mètre d'une circulation d'eau et avoir un puits à sec ou tomber dessus et avoir de l'eau. Donc on ne peut pas généraliser. Mais dans cette couche qui est noyée, on peut rencontrer aussi d'énormes poches d'eau et énormes au point qu'à certains endroits, au niveau des sources, au point 17 là-bas, on peut parfois récupérer des eaux qu'on appelle des eaux fossiles. Des eaux qui ont séjourné pendant 10, une dizaine d'années, des centaines d'années, voire des milliers d'années. À savoir que des fois, l'eau qui tombe sur le plateau et qui a l'air de ressortir à la source n'est pas la même. Donc on a des fois des eaux fossiles qui ont plusieurs milliers d'années qui ressortent. Ces eaux sont souvent très correctes, très propres. Mais comme nous, à l'heure actuelle, nous sommes des pollueurs en surface, il est possible que dans quelques milliers d'années, à la sortie, on ait de l'eau polluée. Donc on verra ça peut-être un peu plus tard. Alors, comme là. Alors pour aller plus loin, pour vous montrer un petit peu quelles sont nos sources qui nous approvisionnent en eau, j'ai pris une carte qui m'a paru sympathique et symbolique. C'est une carte qu'on trouvait dans les classes, qui était pendue le long des murs, et qui est une carte en plus qui a été faite par Albert Cavaillé, qui a été notre premier président de la Fédération française de spéléologie, et dont je suis parti de cette carte récupérée dans un établissement scolaire pour vous indiquer les sources qui étaient déjà marquées, bien entendu. Alors, à savoir ici, une des plus au nord de cette zone, voilà, qui est la source des Candes, qui alimentait à un certain moment en partie la ville de Caussade. Maintenant, Caussade prend l'eau directement dans l'Aveyron à Gaillerac. Donc cette source du Cande alimente toute la zone depuis la Roque. Après, nous avons ici Saint-Géry, en haut de la Bonnette, qui alimente en partie Caylus. Les alentours, hein, bien entendu, je donne le nom que de la grande ville. Hein. Ici, nous avons Livron, voilà, Livron, qui est aussi un captage toujours du secteur de Caylus. Un autre captage qui va alimenter la ville de Saint-Antonin, voilà, la Gourgue, où nous étions cet après-midi en balade. Un peu plus bas encore, le long de l'Aveyron cette fois, puisque là on était sur la Bonnette, nous avons Touriès, qui maintenant est jonctionné avec le réseau de la Gourgue pour alimenter la ville de Saint-Antonin et le secteur de Casals. Il y a eu interconnexion entre les deux réseaux. Et un peu plus bas, toujours dans le Tarn-et-Garonne, bien entendu, Fonclaré, qui alimente plutôt le secteur de Bruniquel. Ceci est le volume produit par chaque résurgence. C'est pas rien, hein. Sur l'année, 10 500 000 mètres cubes, donc à la source du Cande. 4 millions à la source de Saint-Géry. 3,8 millions à la source de Livron. La plus grosse, la Gourgue, 13 500 000 mètres cubes par an. Touriès, 4,7 millions. Et ici, Pont-Claré, 2,4 millions. Ce qui fait quand même pas mal au niveau de la production. Ici, nous avons d'autres résurgences qui ne sont pas captées. J'en ai mis que quelques-unes, il y en a beaucoup plus, hein. J'ai mis que celles qui étaient les plus évidentes, je ne vais pas vous donner les noms, mais donc il y en a d'autres. Mais il y a aussi, donc, dans la partie Tarn, des résurgences captées, le long des gorges de l'Aveyron, donc Amiel pour celle qui est plutôt vers le nord, et en dessous, c'est la Madeleine des Albis, légèrement en dessous. Ça, c'est dans le Tarn, département du Tarn. Et bien entendu, il ne faut pas oublier la source du Prince Noir, qui est l'eau minérale Saint-Antonin, et qui est mise en bouteille. Voici un petit tableau récapitulatif des volumes produits par la résurgence donc à gauche, par les résurgences à gauche, et ceux consommés. On s'aperçoit qu'en proportion, on consomme 4,8%, 5% en moyenne, de la production de nos sources. Alors, ça paraît faible, bien entendu, mais notre problème, c'est surtout de mettre en adéquation la production naturelle, qui vient de l'eau de pluie, et la consommation humaine, et qui souvent ne tombent pas en même temps. C'est-à-dire que l'hiver, on a de l'eau, mais on en a moins besoin au niveau de la consommation humaine, et l'été, il pleut moins, et on en a plus besoin au niveau de la consommation. Donc mettre ça en adéquation, ce n'est pas tout à fait évident, et c'est pour ça qu'on a interconnecté sur Saint-Antonin les réseaux de la Gourgue et de Touriès pour pallier au manque d'eau des fois que l'on peut avoir ou disons à la consommation trop importante sur la gourgue qui a séché à l'extérieur le réseau de surface. Donc ça permet d'avoir une certaine sécurité. À titre indicatif, j'ai mis quelques traçages que nous avons réalisés. Ici un traçage qui est assez curieux, qui fait Servanac, la Maladrerie. Alors si certains connaissent la Maladrerie à Saint-Antonin, on a été très surpris de voir le colorant sortir à cette source-là. Ça serait l'un des plus longs réseaux si on arrivait à le pénétrer, et l'un des plus profonds puisqu'il ferait environ 180 mètres de dénivelé. Je pense aussi qu'à la Maladrerie, on ne voit qu'en fait une sorte de trop-plein de ceux qui circulent sous le plateau, qu'en fait une grosse partie de l'eau sort sûrement dans le lit de l'Aveyron et qui est cachée à nos yeux. Il y a quelque chose qui se passe qui est... c'est trop faible à la sortie de la Maladrerie, il y a autre chose qu'on ne connaît pas. Et ce n'est pas le seul endroit où on a des énigmes, bien entendu, dans nos gorges. Un autre traçage, c'est celui de Touriès, un double traçage. Un premier qui vient de Guillot, c'est-à-dire du côté de Saint-Cyr, 7 km à vol d'oiseau, et qui ressort donc à Touriès. Celui-là a été effectué donc par la Sogrea, sur mes indications, il y a une vingtaine d'années. Et un autre qui vient de Saint-Géniès, donc, qui est presque perpendiculaire et qui alimenterait aussi la résurgence de Touriès. Alors on va surtout essayer de vous montrer ce qui se passe dans cette zone-là, une zone que l'on étudie plus particulièrement. Comme on n'a pas énormément de temps, je ne pourrais plus parler de tous les autres captages, mais je pense qu'il faut aller essayer de faire une petite synthèse. Ici, une vue alors, qui paraît un peu sombre de géoportail, et je vais mettre en place les différents réseaux que l'on connaît dans le secteur de Saint-Antonin-Casal. Tout d'abord, il faut matérialiser une faille géologique très importante qui, semble-t-il, oriente les réseaux. C'est la faille Doumer, Guillot-Doumer, Vielfour. Alors Vielfour, certains doivent connaître, c'est quand on passe en kayak, c'est un petit rétrécissement avec des rapides, voilà, au saut du loup. Dans ce secteur, nous avons dans le cirque de Beaune une petite sortie d'eau qui s'appelle la mangrove, ici, qui mesure environ 300-400 mètres de... 400 mètres de développement. Alors la sortie d'eau est toujours du côté des gorges de l'Aveyron et quand on rentre sur le plateau, c'est l'amont. Hein. Je n'ai pas indiqué de flèche. Tout à fait au-dessous, nous avons une sortie d'eau que vous connaissez bien, dont vous avez au moins entendu parler, qui est la grotte du Capucin, dans l'arête rocheuse du Capucin. À l'heure actuelle, 1300 mètres de développement et nous pensons que le réseau peut continuer, mais on a quelques problèmes d'accessibilité. Ceux qui sont du coin savent pourquoi. Donc un réseau qui pourrait se développer, mais avec du matériel et un investissement assez important. Un autre réseau encore plus important, c'est le réseau Higues des Rameaux, Grotte de la Dame Blanche, 6 km de développement. Celui-ci est pratiquement connu jusqu'à son extrême amont. Il y a peu de chances qu'on aille plus loin vers l'amont. Par contre, on peut très bien trouver des ramifications latérales importantes. Mais c'est un réseau qui demande beaucoup d'efforts, une des cavités les plus difficiles du département, la plus difficile sûrement du département, et peut-être bien l'une des plus difficiles à explorer de toutes celles qu'on a l'habitude de pratiquer, même dans les Pyrénées. C'est un réseau où il faut faire excessivement attention, où il y a régulièrement du gaz carbonique naturel à l'intérieur, dont des difficultés respiratoires importantes, beaucoup d'efforts physiques, un effort physique très soutenu, et aller jusqu'à l'extrémité, je crois qu'il y a 5 ou 6 spéléos qui sont allés jusqu'à son extrémité, pas plus. Donc très physique, très endurant, très difficile. À côté, se développe encore le réseau de la Ventura. Ventura, 7 km de développement à l'heure actuelle, et ce n'est pas fini. Nous avons plusieurs points où il y a des points d'interrogation, où il y a de la première à faire. Nous pensons que sur ce réseau, il est possible d'arriver à 10 km. Alors, quand on regarde la faille Doumer-Vielfour et qu'on regarde les réseaux, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque chose qui marche ensemble. Hein, ça va, les réseaux sont orientés en fonction de la fissuration. Quand on marque une faille sur la carte géologique, ce n'est pas une faille. En fait, c'est la direction principale et l'endroit où la faille est la plus évidente. Mais il faut se dire que parallèlement à cette faille, il y a un tas de petites cassures qui font partie de la faille, qui ont bougé en même temps qu'elle. Et les réseaux se développent souvent de manière à angle droit, en faisant des décrochements, en suivant la faille, l'orientation de la faille principale, plus des petites cassures perpendiculaires. Donc là, ici, c'est très caractéristique de cette zone du cirque de Beaune et à côté jusqu'à Touriez, donc jusqu'à Casals. Je vais aller un petit peu plus loin et pour se rapprocher de ce qui nous concerne particulièrement, la mise en protection de l'eau, vous avez en rouge toujours la faille d'Oumer-Vielfour. J'ai rajouté deux réseaux qui sont des réseaux accessibles seulement en plongée. Vous avez le réseau noyé de Touriez, celui qui part vers le sud, accessible seulement en plongée, plus d'un kilomètre de plongée, 1,5 km environ, avec un point bas à moins 80 mètres, dans des volumes énormes. Et de l'autre côté de l'Aveyron, celui qui est ici, c'est le réseau de la Vipère, exploré sur 1920 mètres, en plongée, siphon franchi. C'est l'un des siphons les plus importants d'Europe franchi. Là, il se développe, il va en gros vers le point de vue, vers Brousse, et le tunnel avec le petit point de vue. Donc, ce qui nous concerne, nous, c'est plutôt Touriez. Alors, Touriez, le réseau des plongeurs, eux, rentrent par la résurgence et remontent sous le plateau. Vous voyez les directions que ça prend, direction plutôt vers le sud. Voici Touriez, un point rouge, un point de captage de l'eau, périmètre de protection immédiat, obligatoire. La loi dit que il faut protéger, il faut mettre une barrière. Donc, on met une barrière, on met une fermeture. Depuis peu, hein, depuis peu. Enfin, on a 20 ans de retard, mais depuis peu. Ce que l'on voit peut-être mal quand même sur la photo, parce que c'est un petit peu sombre et on a de la lumière, là, de l'éclairage, c'est que dans la zone gauche de la barrière, là, il y a déjà le passage par-dessus le grillage. Ça date de un mois. Donc, autour de ce périmètre immédiat mis sur la sortie d'eau, l'endroit où il y a le captage, on a un périmètre rapproché, celui qui est ici en orange, périmètre où il faut prendre des précautions particulières au niveau des activités humaines de surface. Et nous avons un périmètre rapproché satellite, ou appelé disjoint, qui est situé autour de l'endroit où nous avons effectué des colorations. Vous avez la coloration dont j'avais parlé tout à l'heure, Guillot-Touriez, en vert, et la coloration en bas, Saint-Géniès-Touriez. En vert sont les deux colorations. Donc il est normal qu'au point de départ, là-bas, il y ait un périmètre rapproché. Mais on va voir pourquoi. Là aussi, il y a une explication. Et après, on a un périmètre éloigné, celui qui se trace en jaune, qui dépasse, qui sort de la photo, qui est beaucoup plus vaste, encore une zone où il faut faire plus particulièrement faire attention, un peu moins que dans le périmètre rapproché, mais il faut faire attention de ne pas faire des bêtises dans cette zone-là. Donc, ici, quelque chose de particulier, c'est qu'on a un périmètre immédiat satellite sur Guillot, l'endroit où a eu lieu le traçage. La loi dit que il faut un périmètre immédiat. Donc, ça impose achat, grillage, fermeture. Saint-Géniès, pareil, origine d'un traçage, achat, grillage, fermeture. Et la Ventura, alors la Ventura, on n'a pas trop su pourquoi. Là, il y a eu un bug. Périmètre immédiat, satellite, achat, grillage, fermeture. Voici la fermeture mise en place il y a un mois et demi, deux mois à peu près, autour du point d'entrée de l'eau, de Guillot. Alors là, c'est ma faute. Il y a 20 ans, j'ai dit à la Sogrea qu'ils pouvaient mettre du colorant là. Ils ont mis du colorant là, c'est sorti à Touriez, 48 heures après, 50 heures après. Le seul problème, c'est que je ne leur ai pas dit que, comme ce trou-là, il y en avait 20 tout autour que je connaissais qui auraient donné le même résultat. Donc imaginez un grillage autour de 20 points, ça ressemble à une forêt de derrick, un petit peu comme on voit aux États-Unis, là, avec des puits de pompage partout. Donc on a grillagé ça, c'était celui qui est le plus évident, qui est au bord de route, là leur dit que, donc il faut. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il y ait un périmètre immédiat, disjoint, avec achat, grillage et tout ça, sur 3 km², 300 hectares. Mais il y a une ferme, il y a des routes, et donc c'est impossible. Mais ça aurait été logique. Si on continuait à la logique de la loi, voilà ce qu'il aurait fallu faire. Donc on se donne bonne conscience en grillageant un point, mais si on en reste là, on a tout faux. On a tout faux. Ce qu'il faut, c'est surtout alerter les populations, alerter les gens qui vivent sur le territoire, leur montrer que s'ils font une grosse bêtise dans cette zone que j'ai marquée moi en rouge, qui ne l'est pas, la bêtise va ressortir à la résurgence. Mais comme eux-mêmes sont alimentés par la résurgence, c'est eux qui vont boire la bêtise. Ou alors, elle sera traitée entre-temps, ce qui fait que le prix du mètre cube d'eau va augmenter. Saint-Géniès, en bas, j'ai mis un rectangle noir. Un rectangle noir parce que il y a aussi achat-grillage, on va le voir. Voici le grillage. l'achat. Et juste derrière, vous avez des pierres qui apparaissent. Mais quelques années avant la fermeture, alors là, il y a une photo qui est, à mon point de vue, extraordinaire. Extraordinaire. Vous pouvez tous la voir en allant chez Géoportail. Vous avez le dépôt de stérile de carrière qui a été autorisé dans cette zone-là et la zone grillagée qui est en rouge. Le gros problème de Touriès, c'est que Touriès a beaucoup de turbidité. Quand il se met à pleuvoir, l'eau de Touriès est turbide. Or, la turbidité rend l'eau impotable, non potable. S'il y a trop de turbidité, ça fait des critères pour avoir de l'eau qui n'est pas potable. Donc, mettre un dépôt à cet endroit-là, ça ne peut qu'augmenter la turbidité, puisque la coloration part à partir du point rouge. Or, quand vous regardez la photo, regardez un petit peu cette fissuration qui apparaît sous la végétation. Tout ça sont les fissures du karst. La zone d'infiltration diffuse que je vous montrais tout à fait au début, dans le karst, elle est là, elle est apparente. Là, il y en a des kilomètres et des kilomètres carrés dans toute la zone. Donc aussi, pour se donner bonne conscience, on a grillagé le point rouge, on l'a acheté. Mais si je verse n'importe quel polluant à n'importe quel point de cette zone-là, ça passe à travers et ça ressort à Touriès. C'est une certitude. Donc il faut, je pense, éviter de faire des actions un petit peu où on investit de l'argent. La loi dit que, on le fait, la loi dit que. Mais la réalité des terrains est tout autre. La réalité du terrain, c'est surtout informer les gens pour qu'ils prennent le maximum de précautions, ceux qui vivent à la surface. Là, il ne faut pas les empêcher de vivre. On a tous le droit de vivre sur le plateau. Mais les informer en disant que n'importe où, où quelque chose sera rejeté, ben, ça a des chances de passer dans le réseau et d'aller à la résurgence. Donc voici le deuxième exemple. Alors vous allez sur Géoportail, vous verrez ces fissurations. C'est extraordinaire, fantastique. Troisième, eh bien, on va monter là-haut, on va monter à la Ventura. À la Ventura, par erreur, c'est notre faute, c'est la faute au spéléo. Depuis longtemps, nous avons dit que l'eau qui circulait dans la Ventura à 80 mètres de profondeur, nous avons dit qu'elle ressortait à Touriès, sans avoir de preuves, parce que ça nous semblait évident. Or, depuis une dizaine d'années, nous nous sommes mis à étudier la Ventura, à refaire la topographie du réseau. Et on se rend de plus en plus compte, à l'évidence, que l'eau a de fortes chances de ressortir dans l'Aveyron en allant tout droit suivant la faille, que de venir au bout du réseau des plongeurs, ici, ou alors il y aurait une liaison avec la résurgence, mais on est déjà très bas. Elle y est peut-être, mais nous avons coloré au point vert dans le réseau. Nous avons mis de la fluorécéine, dans la photo que nous voyons, que nous avons vue tout à l'heure, voilà. Il y a un mois, pratiquement, pas tout à fait un mois, que nous avons mis de la fluorécéine pour voir ce qu'il allait se passer, à quel endroit allait ressortir la fluo. Eh bien, pour l'instant, les résultats sont complètement négatifs à Touriès. À la vue, rien. Des fluocapteurs révélés, mis en place, rien. Pour l'instant, la fluorécéine ne ressort pas sur Touriès. Mais on ne l'a pas vu ressortir ailleurs. Nous allons continuer encore pendant 15 jours à prélever nos fluocapteurs, sachant que le tracé qui arrivait de Doumer, Guillot, dans ce tracé-là, le colorant passait en 48 heures, 50 heures. Nous, ça va faire un mois qu'on a coloré la Ventura. Eh bien, pour l'instant, on n'a toujours rien récupéré. Ça ne veut pas dire que ça ne sort pas à Touriès, mais aussi il y a peu de chances que ça sorte à Touriès. Et donc là encore, un périmètre a été mis en place. Dans le compte rendu du bureau d'études, il était marqué qu'il y avait eu un traçage. Il n'y a jamais eu de traçage, à part celui qu'on vient d'effectuer il y a un mois. Jamais aucune information qui pouvait affirmer que l'eau qui circulait dans la Ventura sortait à Touriès. Donc, en conclusion, et avant de passer à deux petits films, les eaux souterraines ne font pas de politique. Ça veut dire que, et c'est Castoret qui l'a démontré, vous savez que les sources de la Garonne sont en Espagne. C'est Norbert Castoret, au moment de la guerre 39-45, qui a mis du colorant, une centaine de kilos de fluorécéine au trou du taureau versant espagnol, et la fluorécéine est ressortie au Gualdijoueu et a coloré la Garonne sur 50 kilomètres. C'est à cause de lui, ou grâce à lui, que les Espagnols n'ont pas pris l'eau du trou du taureau parce qu'ils voulaient l'envoyer vers un barrage versant espagnol. Donc l'eau franchit les frontières, l'eau passe sous nos villages. Elle passe sous les campings, sous des stations, sous des camps militaires. Elle passe un petit peu partout. Elle se fiche éperdument de ce qui se fait en surface. Si ça penche d'un côté à droite en surface, elle peut très bien aller à gauche. Et vice-versa. Donc en fait, il faut essayer de mener une politique de l'eau appropriée, pour être efficace. Voilà le point où je m'arrêterai. C'est-à-dire qu'il faut éviter de partir de textes qui sont très contraignants et laisser tomber à côté. Tout ce qui est le plus important, pour moi, il faut aller sur le terrain, voir les gens, les rencontrer, leur expliquer comment ça fonctionne, pour qu'ils évitent de faire des bêtises. Et je dirais en plus, bon, nous sommes tous des pollueurs, moi compris, bien entendu. On va essayer de faire le mieux possible, mais nous sommes tous des pollueurs potentiels. Voilà ce petit raccourci en diagonale de nos eaux souterraines donc à l'est du département. Maintenant, je vous propose de visionner un petit film qui va être lancé et qui montre une dépollution spéléo très près de chez nous, il y a quelques années, je dirais même presque dans notre département, puisqu'à une certaine époque, nous étions lotois.
Les phosphatières sont des cavités qui se sont creusées il y a plus de 50 millions d'années. Au cours de leur histoire, elles se sont remplies en piégeant du phosphate. À la fin du 19e siècle, les mineurs ont recreusé ces cavités à l'aide de pelles, pioches, seaux et treuils pour en extraire ce phosphate. À Koulou, lorsqu'ils ont atteint la côte de moins 60 mètres, ils ont été stoppés par une remontée des eaux. On raconte au village qu'ils ont dû déguerpir en abandonnant tous leurs outils sur place. Ces cavités à ciel ouvert n'ont pas tardé à trouver un nouvel emploi. Elles ont rapidement servi de décharge d'ordures.
Alors avant de mettre du colorant pour voir où vont les eaux, il faut d'abord savoir si effectivement cette phosphatière, c'est vraiment, elle est liée au drainage souterrain important ou si c'est tout simplement, si elle a un comportement de puits citerne. Donc pour cela, on va mettre en place dans la phosphatière un capteur de pression qui va être relié à un enregistreur permanent de niveau d'eau.
Passe au coin là-bas, parce que moi je suis un peu proche, un peu plus gros que.
Donc on va pouvoir suivre, après les pluies, les variations de niveau du plan d'eau. Et à partir de ces informations, on va pouvoir déduire effectivement s'il y a une relation forte avec les drainages souterrains ou si, effectivement, ça a un comportement un peu de puits citerne. La caisse blanche, c'est l'enregistreur de niveau. Alors, on a ici le transmetteur, ici, d'informations, qui envoie les informations numériques sur la centrale d'acquisition des données. Et après, une fois que tout est lancé, on laisse avec, bon, ce sera des mesures qui seront faites à peu près toutes les 5 ou 10 minutes, suivant ce que nous verrons un petit peu par la suite. Et donc, au bout d'un mois, nous viendrons rechercher un petit peu les informations pour voir comment ça a bougé, etc.
En fait, ces hydrogrammes nous ont appris beaucoup de choses, puisqu'on constate que dans la fossatière, il se passe quasiment rien du tout. Mais quand la crue devient plus importante, on constate qu'au fond de la fossatière, très brutalement, le niveau monte de 4,50 m. Et en fait, ça veut dire que en haute eau, donc pas tout le temps, mais en haute eau, la fossatière de Koulou communique, et communique de façon très facile, avec ce qu'on appelle un drain karstique, c'est-à-dire une espèce de tuyau qui conduit l'eau dessous le cosse jusqu'à la résurgence. Donc le problème est relativement facile à comprendre. Les poubelles qui sont au fond de Koulou, tant qu'il ne pleut pas beaucoup, ce n'est pas un problème, mais dès qu'on a un épisode pluvieux un petit peu plus important, eh bien, elles vont être aspirées, un petit peu comme dans le siphon des WC, même si le parallèle n'est pas très agréable, mais après tout, il est tout à fait évocateur. Aspirées vers où ? Ben, la question reste posée, ou le Camenet, ou les Chartreux.
Maintenant, il n'y a plus aucun doute. L'eau présente au fond de la fossatière de Koulou est bien en relation avec une rivière souterraine.
Fais-nous un sourire. Le comité départemental de spéléologie du Lot et le comité régional de spéléologie de Midi-Pyrénées, en collaboration avec la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Lot, décident d'entreprendre une action de dépollution du site.
Vas-y!
Il est très facile de se débarrasser des déchets dans une cavité souterraine. Il suffit de les laisser tomber. Par contre, pour les remonter de 60 mètres de profondeur, il faut les trier, les attacher et utiliser des moyens de levage puissants.
Donc on suit sa main. Hein.
Voilà. Bah, tu nous fais un sourire effroyable.
Ouais.
C'est un paume. Hein.
On a trouvé beaucoup des crânes de mouton au chevreuil.
Et puis les médicaments aussi du jour.
Les médicaments aussi.
Quelques seringues.
Il y a rapport entre les crânes et les médicaments, je sais pas.
Ah, monte vite.
Ah non, non, pardon.
Monte vite, monte vite.
Pourquoi ? Là, t'as la main.
Je crois que tu vas te claquer, tu veux te reculer un peu, s'il te plaît.
sans se cheminer.
Des sans
et tout ce que les gens peuvent y apporter.
Mais vas-y, il faut te l'encontrer.
Devant nous, des saints de se profilent sur cette terre. Alors, les dames, vous savez, alors, je vais voir les dames. Nous avons des bijoux.
Les déchets superficiels ont été enlevés. Maintenant, il faut gratter pour enlever les ordures qui sont sous le gravat et les cailloux. C'est la tâche la plus difficile parce qu'il y a beaucoup de cailloux qui recouvrent les ordures.
Des prélèvements pour déterminer la qualité chimique et bactériologique de l'eau ont été effectués avant, pendant et après chaque opération. Les analyses ont laissé apparaître une teneur anormalement élevée en plomb et en fer total.
Alors, quelle est donc cette mixture rouge que vous préparez ?
Nous sommes en train de préparer la fluorécine, 4 kg.
Une question importante reste posée. Où va donc cette eau ? Pour le déterminer, il faut entreprendre une coloration. Tout d'abord, il faut diluer la fluorécéine, qui est un colorant sans écotoxicité et qui ne se détruit pas en l'absence de lumière, et ensuite la déverser dans la vasque. Ce colorant va ensuite accompagner l'eau dans son parcours souterrain qui peut durer plusieurs semaines. La direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Lot va ensuite organiser une surveillance des résurgences potentielles, la fontaine des Chartreux à Cahors, les sources captées de Grégols et du Cande à Puy-la-Roque. Après un week-end laborieux, la phosphatière s'est refaite une beauté. Elle va maintenant retrouver son calme. Nous livrera-t-elle le secret de son eau ?
C'est nous, Tarn-et-Garonne, qui récupérons l'eau de la fossatière de Coulou. Deuxième film sur l'Aventura. L'Aventura dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette cavité qui a été donc fermée, puisqu'elle était supposée communiquer avec Touriès. Donc le périmètre, la clôture n'était pas encore mise en place il y a moins d'un mois quand on a fait la coloration, mais elle devait être mise en place. Un film qui a été réalisé en une seule fois, avec une seule bobine de film, avec un seul éclairage, et dans des conditions, je dirais pratiquement, et même de première au niveau du cinéma. Donc c'est un film avec des défauts, au niveau du son en particulier, le son c'est très difficile à capter, on n'avait pas de micro particulier, c'était le micro-caméra.
Le Tarn-et-Garonne.
Et voici, vous allez voir un petit peu l'erreur que l'on commet au départ.
Saint-Antonin et Casal se trouvent l'Aventura.
Voilà.
Il s'agit de l'une des deux cavités souterraines les plus importantes du département. 140 mètres de profondeur et 6 km de développement. L'entrée fut découverte en 1965 et le siphon terminal atteint en 1990. Aven signifie gouffre.
Ah ouais.
Aujourd'hui, nous sommes quatre du club de spéléologie de Caussade à participer à une nouvelle sortie d'exploration. Nous avons deux objectifs. Compléter la topographie du réseau et tester notre nouveau dispositif vidéo en progressant jusqu'au terminus. L'occasion est rare, car l'air de la Ventura est très souvent chargé en gaz carbonique et l'exploration devient alors impossible. Mais en cette saison, et avec l'aide d'une ventilation artificielle, l'air y est respirable.
Descend sur corde jusqu'à 80 mètres de profondeur.
La zone d'entrée est à caractère très vertical. Se succèdent de nombreux puits et plans inclinés.
Je filme.
Non, mais vas-y, continue. C'est joli, clair. Hein.
Il y a une petite zone tranquille avant un nouveau puits, le dernier puits, un petit peu de progression et on arrive à un puits qui était très très étroit et qu'on a été obligé d'élargir pour passer avec du matériel.
Il est très étroit, il a été rétréci.
Il a été rétréci?
Oui.
Pourquoi?
Il y a des blocs qui sont tombés dedans.
Vous avez pas réussi à les
tomber? Non. Ils se sont calcités.
Ça, c'est la chute dans le puits étroit.
Ouais.
Donc voici la topographie du réseau.
Une fois les descentes terminées, suit une longue étroiture horizontale à 80 mètres sous la surface qui aboutit à une première rivière souterraine.
Vers le bas.
Cette zone-là n'a pas été filmée.
Sur plusieurs centaines de mètres, nous suivons cette rivière dans le passage dit du torticolis.
C'est cette rivière que nous allons
colorer. Au-dessus de nous, l'ancien méandre creusé par l'eau laisse deviner des niveaux supérieurs identiques à celui où nous progressons.
Nous avons
la rivière se perd finalement dans un profond déversoir, car un niveau inférieur inexploré jusqu'à ce jour. Il est fort probable qu'elle rejoigne l'importante résurgence de Touriès, au bord de l'Aveyron.
Voici notre erreur.
L'eau est captée pour alimenter la commune de Casal. Trouver cette connexion et agrandir le réseau de l'Aventura est un désir qui sous-tend chacune de nos sorties. Mais revenons à notre excursion. Nous poursuivons notre avancée.
T'as ton plage de près, Bastien ?
Par contre, toi, ce cas, tu l'as raccourci ?
Non. On avance dans la grande galerie, alors, et on va faire des photos devant, parce que là, c'est immense.
Il est donc rare de respirer ici correctement un air non saturé en gaz carbonique. Le CO2 provient de la fermentation des déchets végétaux, de l'humus, très abondant en surface. Ce gaz est aussi à l'origine de la formation des gros volumes souterrains, car il acidifie l'eau de pluie. Celle-ci, en pénétrant sous terre, peut dissoudre d'importantes masses de calcaire et créer des vides parfois impressionnants. Ces grandes et magnifiques galeries fossiles s'étendent sur plusieurs kilomètres, jusqu'à rejoindre un deuxième ruisseau actif de moindre importance. Finalement, l'équipe se sépare. Bastien et Rémi relèveront les données pour compléter le plan, ici. Philippe et moi, nous poursuivons jusqu'au fond. C'est une première pour nous deux. Pour en profiter, nous décidons alors de ne filmer qu'au retour, une fois le siphon terminal atteint. À deux, filmer s'avère délicat. Dans une main, la caméra, cloîtrée dans un sac étanche, empêchant l'accès au viseur et enfermant un micro condamné à enregistrer les bruits de manipulation. Dans l'autre main, l'éclairage, avec pour parti pris d'avancer ainsi, les mains prises, sans jamais arrêter la progression. Pour nous, il faut essayer que le tournage s'adapte à l'exploration, et non l'inverse. La qualité des images en souffre forcément. Mais au-delà de cet amateurisme perfectible, reste la satisfaction de filmer un réseau qui ne l'a jamais été jusqu'ici.
En opposition, les épaules.
Et
Tout au long de notre cheminement, nous devinons des affluents, des galeries annexes, des passages supérieurs ou des puits remontants, autant de lieux où de nouvelles découvertes restent possibles. Mais pour aujourd'hui, ça suffit. Nous reviendrons plus tard. Rémi et Bastien ayant terminé le relevé de données, ils décident de poursuivre et d'explorer un peu plus loin les possibilités d'un passage. Philippe et moi, ivres de la visite, décidons de rentrer. Le froid et le CO2 commencent à se faire sentir, et il reste encore un peu de chemin à parcourir pour rentrer. Le siphon terminal était là, nous nous sommes rejoints à peu près ici, et la nouvelle topographie ajoutée est là.
Bien.
C'est super beau, hein, tu peux pas?
Si.
Moi je filme alors. Super, super, super.
Voilà, ça va se terminer là, très bientôt. C'était peut-être un petit peu long, mais comme ça vous avez vu la rivière de la Ventura ou les rivières de la Ventura. Ça fait 5 ans à peu près que nous avons entrepris le début de la topographie. Il nous en reste encore à faire. Et donc c'est dans ce réseau où on espère dépasser les 10 km de long. Mais les conditions sont difficiles. Hein. C'est pas, ça ne se fait pas tout seul. C'est plus facile quand même que la Dame Blanche.
Merci Michel. On va allumer la lumière ici, si quelqu'un peut. Et puis on va se réserver 15-20 minutes de discussion. Peut-être, Christian, aurais-tu un complément à nous donner? Je dirais bien
sur le plateau calcaire,
une question que je me
pose. Près des communes de Saint-Antonin et Casale, se trouve
spectateur du film.
La Ventura.
Alors, nos eaux souterraines.
Il s'agit de l'une des deux cavités souterraines les plus importantes du département.
Merci. Donc à l'évidence, il est clair que l'étude, en fait, plus qualitative que quantitative, montre qu'il y a un danger potentiel réel, parce que l'activité ou les activités anthropiques ont un impact non négligeable sur la qualité et à long terme, par-dessus le marché. Je crois qu'il faut intégrer la donnée temporelle dans la réflexion. Je suis plus concerné à titre personnel par les quantités, par les études quantitatives de l'eau. Et là aussi, en fait, on a des risques potentiels saisonniers, comme l'a dit très bien Michel tout à l'heure, avec une nécessité de maillage de certains réseaux pour faire venir de l'eau parfois très très loin, de l'Aveyron en particulier, avec des maillages qui, par suite de maillage, en fait, peuvent venir de l'Aubrac. Donc très très loin par d'autres syndicats dont j'ai perdu le nom, mais du côté de Rignac. Hein.
Du côté, c'est le syndicat Rignac-Montbazin.
Oui.
Effectivement, oui. L'eau qui vient de l'Aubrac.
Oui, donc oui, ça peut venir de loin. Donc en fait, on peut avoir des tensions très très graves. On considère, petite information, que lorsque les activités humaines consomment 20% de la ressource, en fait, on est en tension grave. Ce qui veut dire qu'en fait, on est en tension sur la ressource. Mais les différents utilisateurs de la ressource se mettent en tension. Parce qu'en fait, cette eau-là, quand elle manque, c'est en plein été, quand on a des besoins agricoles, hein, très très importants, mais quand on a aussi de la surconsommation saisonnière liée parfois au tourisme, également à l'arrivée de touristes. Donc en fait, va falloir apprendre à gérer ça un petit peu plus correctement, hein, en fait, la ressource en eau, mieux la comprendre. Et là, le travail des spéléos est remarquable, parce qu'on comprend le fonctionnement, du moins, enfin, on comprend le fonctionnement des karsts. Comprend le fonctionnement de notre karst, en fait, celui des causses du Quercy et de l'est du département. Mais en fait, sur les quantités d'eau, effectivement, la ressource risque d'être en tension de plus en plus parce qu'on a un déficit de pluviométrie. Pas en ce moment, c'est bizarre. Là, je disais ce matin que, effectivement, dans les cycles naturels des évolutions climatiques, hein, on est sur une période qui semble être en fait un ralentissement du réchauffement, que certains présentent comme un refroidissement, mais c'est un ralentissement du réchauffement, et qui est accompagné en fait d'une pluviométrie un petit peu plus importante. Mais ce sont des cycles relativement courts, et quand on analyse sur 30 ans en fait l'évolution du renouvellement de la ressource, l'augmentation de la consommation, on peut se douter que vers 2030, en fait, on sera en tension permanente, comme ça s'est passé pendant l'été 2030.
Michel, tu as évoqué en début de présentation que certaines eaux pouvait avoir plusieurs centaines d'années dans le sol. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à le dater ?
Oui, apparemment, parfaitement. Bon, je ne suis pas un scientifique pour répondre exactement à cette question, mais il est apparemment facile, on l'a vu avec André Taris, il nous en a parlé, il est assez facile de dater une eau, puisqu'une eau contient toujours des particules, bien entendu. Et quand on connaît les datations que l'on peut faire à l'heure actuelle avec le radiocarbone 14, qui sont de plus en plus fines, à une certaine époque, il y a une vingtaine d'années, il fallait quelques dizaines de grammes pour donner une date sur un charbon de bois préhistorique. À l'heure actuelle, avec quelques dixièmes de grammes seulement, on arrive à avoir la même date. Donc là, apparemment, sur l'eau, on peut dater une eau pour savoir si elle est fossile et quel âge elle a.
Important, effectivement, ce qu'a dit Michel est tout à fait véridique. En fait, non seulement on a besoin d'une quantité moindre pour dater, mais aussi en fait l'intervalle de tolérance en fait se rétrécit également. Donc, on peut avoir des dates avec 150 ans près. C'est quand même très très important. Alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, l'intervalle de tolérance était largement supérieur. En fait, ce qu'il faut ne pas oublier quand on dit qu'une eau a 2000 ans, ça veut dire que c'est le temps de renouvellement de la ressource. C'est-à-dire que si on pompe dans une nappe qui a 2000 ans, comme ça se passe dans le sud du Tarn, par exemple pour arroser des maïs, ben, il va falloir 2000 ans pour reconstituer le stock. En gros, c'est ça aussi que ça veut dire, quoi. Donc faisons très attention à notre stock et au renouvellement de la ressource.
Oui, tout à fait. Alors on a quelques exemples, un exemple vraiment, je dirais, original pratiquement dans les gorges de l'Aveyron, puisque au-delà de la fameuse chauve-souris que l'on rencontre sous terre, qui est un animal à protéger bien entendu, dans l'eau, effectivement, nous avons des animaux qui ont leur cycle, le cycle total de vie dans l'eau souterraine, ce qu'on appelle les fameux troglobies. Et de ces troglobies, il y en a, effectivement, et dans les gorges de l'Aveyron, nous avons l'un des sites les plus importants d'Europe en ce qui concerne la vie animale aquatique souterraine. Alors pourquoi un des plus importants d'Europe ? Eh bien, tout simplement parce qu'un chercheur a cherché et a trouvé. Donc il s'agit d'un collègue spéléo que l'on connaît fort bien, Claude Bou, qui est à la résurgence d'Amiel, a fait des prélèvements excessivement réguliers et a trouvé toute une vie très importante d'animaux, effectivement, qui vivent dans l'eau et dans les micro-fissures en plus du karst. C'est-à-dire, ce ne sont pas de grosses bêtes, attention, hein, c'est microscopique. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a des zones très très limitées où les animaux sont endémiques de petites zones, de petits biotopes, et on peut avoir deux cavités côte à côte avec des populations différentes et qui ont peut-être évolué aussi de manière différente, avec aucune communication entre eux. Chacun évolue de sa façon et on va trouver une vie finalement plus abondante que ce que l'on supposait, surtout si on se met à l'étudier, bien entendu. Or, dans les gorges de l'Aveyron, parce que quelqu'un l'a étudié, on peut trouver sûrement la même chose dans la vallée de la Bonnette, dans la Lair, dans les sources de la Lair, un petit peu partout. Alors Christian, qui a étudié les bébêtes de très près avec des outils qui permettent de voir, pourra nous en dire aussi un petit peu plus là-dessus.
Oui, alors effectivement, il y a Claude Bou qui est un vrai spécialiste, hein, qui est connu, reconnu par ses pairs pour les travaux qu'il a faits, et en particulier, j'en suis fier, à Bruniquel, et il va recommencer donc à travailler sur quelques bestioles qu'il a découvertes et qui portent son nom, hein, d'ailleurs. Alors le nom scientifique, je ne m'en rappelle plus très très bien, mais ils répondent au joli nom global de stygobies. Stygobies, et ce ne sont pas des insectes, mais ce sont plutôt des crustacés, des malacostratés en plus, hein, donc sont des petites crevettes, hein, si vous voulez vous les imaginer, hein, c'est des petites crevettes. Et je pense que très prochainement, mais en fait on en parlera ensemble, et naturellement Michel sera associé, à Bruniquel, à l'automne, il y aura une conférence du professeur Bou sur ces fameuses bébêtes, quoi.
J'ajouterai juste un petit mot, alors je ne sais pas si Christian va me suivre, sur l'eau. L'eau que nous avons au robinet. Eh bien, l'eau ne coûte rien. Alors quand je dis ça, chacun reçoit la facture, effectivement, et dit, mais si, l'eau, ça coûte. Eh bien, l'eau à la source ne coûte rien. Elle ne vaut pratiquement rien. Par contre, ce que l'on paie sur la facture, c'est le traitement avant de l'envoyer dans le réseau, le transport dans le réseau et le traitement après l'avoir utilisé. Et ça doit représenter pas loin de 99% du prix de l'eau. Je ne sais pas si Christian peut confirmer, mais...
Alors n'oublie pas les taxes, parce que l'État passe un peu aussi aux raquettes. Hein, mais tu as raison, en fait, l'eau... La problématique économique de l'eau, c'est que l'eau n'a pas de valeur, mais elle a un prix. En fait, il faudrait plutôt inverser la tendance et commencer à donner de la valeur à l'eau. Et là, je pense que là, on chercherait à la protéger. Et il y a, n'oublions pas les syndicats qui sont en charge, en fait, également de construire les adductions, les protections, hein, également, qui vendent pas l'eau très très cher, mais ce sont tous les services autour de l'eau que la plupart des compagnies fermières nous font payer.
Donc si on avait de l'eau parfaitement propre à la source... Eh bien, on aurait le transport à payer.
Vos amis du CPIE ont-ils envie de dire un petit mot, pas spécialement ?
À peu près sur le vif, nous, on est ravis que Michel ait pu exprimer aussi les eaux souterraines, parce que souvent, on n'en parle pas. Pourtant, on est dans un secteur où l'eau est essentiellement souterraine. Et c'est quelque chose qui est très peu connu et très peu connu du grand public aussi. Nous qui faisons au CPIE Midi-Quercy, avec Christian, Fabien... beaucoup d'éducation à l'eau, on s'aperçoit, et que c'est ce qu'on essaye de mettre en avant en particulier auprès des établissements scolaires et des jeunes de notre territoire, mais aussi des adultes qui viennent le visiter, de leur montrer en fait d'où vient l'eau, pourquoi on a une eau potable, pourquoi on a une eau sale et comment il faut la traiter, on leur explique tout ça au quotidien.
Force de chercher, est-ce qu'on ne va pas trouver des grosses nappes d'eau et qui pourraient susciter des envies, ou est-ce que c'est vraiment, à un moment donné, jusqu'où il faut chercher ?
On cherche. Bon, c'est l'esprit même de la spéléologie et du spéléoplongeur à l'heure actuelle. C'est de trouver. Et effectivement, si on trouve, après, c'est quelqu'un d'autre qui va peut-être l'utiliser. À l'heure actuelle, le Tarn-et-Garonne est en train de devenir... pratiquement un département référence en ce qui concerne la plongée souterraine, profonde, longue. Le département a été méconnu, même au niveau de la spéléo, nous sommes pratiquement les seuls, qu'au des Tarn-et-Garonnais, à pratiquer, avec quelques Tarnais, à pratiquer la spéléologie CE chez nous. Les Parisiens s'arrêtent au département du Lot, les Toulousains vont vers les Pyrénées, et nous laissent un petit peu tranquilles chez nous. Depuis que les plongeurs ont découvert qu'il y avait des rivières souterraines et des siphons à plonger, par exemple à Touriès, eh bien on a des découvertes surprenantes dans le milieu souterrain profond, sous le niveau de l'Aveyron. L'Aveyron est un petit phénomène de surface presque anecdotique. Il y a d'énormes réserves d'eau et d'énormes réseaux souterrains qui passent sous le lit de l'Aveyron. Déjà en 1957-58, par là je crois, Albert Cavaillé a effectué une coloration à la rivière souterraine des vipères, dont à Casal, au moulin de Casal, en face le moulin de Casal, sur la rive gauche de l'Aveyron. Et cette coloration a été ressortie rive gauche de l'Aveyron, mais aussi à une sortie rive droite, en passant sous le lit de l'Aveyron et en étant totalement indépendant de l'Aveyron. L'Aveyron est un phénomène de surface, ce n'est pas le niveau de base. Le niveau de base est plus bas. Et à Touriès, les plongeurs sont descendus à 80 ou 90 mètres, sous le niveau de l'entrée, donc ça donne 70 mètres environ sous le niveau de l'Aveyron. il n'y a pas de liaison directe entre l'Aveyron et les réseaux profonds. Bien sûr, on ne pourra pas aller tellement plus bas, puisque l'altitude, le Z de l'Aveyron n'est pas très élevée. Nous, le balados, alentour de 100, 110 mètres dans cette zone-là, 115 mètres. Donc, on ne peut pas aller au-dessous du niveau zéro. Donc, il y a effectivement un potentiel à découvrir, des réserves à découvrir, elles existent. Par contre, il faudra les manipuler avec beaucoup de précautions, comme disait Christian, car si on pompe de l'eau dans une grosse quantité, une grosse masse d'eau, automatiquement, il y en a d'autres qui vont venir, il y a des arrivées d'eau qui vont venir compenser ce manque, cet appel d'eau que l'on va tirer vers la surface. Et comme nous sommes des pollueurs, et bien l'eau qui va arriver de nouveau dans ces nappes-là va être de l'eau polluée. Donc on aura pendant des années, des siècles à traiter de l'eau polluée. Donc il faut faire très très attention à ces nappes-là. Il ne faut pas pomper n'importe comment, pour n'importe quoi à l'intérieur. Il faut faire très attention.
Tu m'autorises à simplement à compléter. Alors effectivement, le travail des spéléos est absolument essentiel. On ne peut pas s'en passer. Mais il y a d'autres techniques qui viennent en appui, mais sur d'autres types de terrains. Qui sont les études gravimétriques, hein, qui permettent de regarder comment en fait de grandes nappes ou de grands bassins peuvent varier en fonction de la consommation et des apports en pluviométrie. Mais ça, c'est après-demain qu'on en parle. Donc moi, je vous invite tous à revenir pour qu'on en parle.
Moi, j'avais une question pour Monsieur Soulier. Dans la projection, vous nous avez évoqué les problèmes de périmètre de protection du cadre de la loi avec des grilles. Vous avez montré une photo qui disait ben regardez, à côté de la grille, il y a déjà le passage. Pourquoi c'est des spéléos sauvages qui vont? C'est parce que c'est un site agréable pour aller faire la teuf? C'est quoi?
C'est un site touristique, que les gens connaissent depuis très longtemps, en particulier Touriès, et dont ils avaient l'habitude d'aller visiter le Porche. Alors, il y a l'habitude à visiter le Porche, cette grille les dérange profondément. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Et en plus, j'ai la clé pour aller récupérer mes fluocapteurs. Donc, je les mets peut-être dans la poche. Là, je peux vous la montrer. C'est une clé bleue qui est marquée Touriès dessus. Non, je vais récupérer les fluocapteurs. Non, en plus, c'est un site qui, jusqu'à présent, a eu un captage. Le captage existait, bien sûr, sur Touriès. Mais les périmètres n'étaient pas déterminés. Et depuis des dizaines et dizaines d'années, les gens allaient à proximité du captage. On ne voit pas les tuyaux. Les tuyaux sont loin sous terre. Ça veut dire que si on jette une petite saleté au niveau du porche d'entrée, elle ne passera pas dans le réseau. Donc, à la limite, à part des risques de dégradation, des installations complémentaires ont été mises en place tout dernièrement. Donc, il pourrait y avoir des dégradations de ces installations complémentaires. Donc, ça peut-être protéger les installations complémentaires, mais franchement, l'eau, ça n'a pas tellement d'utilité. Pour l'eau, hein, je parle bien pour l'eau.
C'est un peu le même cas à Saint-Géry, où en fait le captage se fait bien plus loin que l'entrée de la grotte.
Tout à fait. À Saint-Géry, il y a une grille qui, depuis longtemps, donc empêche le passage pour aller. Alors là, il y a peut-être un autre risque quand même, car la partie alimentation électrique va jusqu'aux pompes et il faudrait pas que quelqu'un s'électrocute, bien entendu. Il y a un barrage aussi qui a été construit à l'intérieur, un peu plus loin après la grille, et derrière il y a de l'eau à s'y noyer, puisque j'y suis allé plusieurs fois, il faut avancer en bateau pneumatique ou en combinaison néoprène. Il faut prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas de dégradation de matériel, d'arrêt de pompe, et ça peut se comprendre peut-être un peu plus facilement. L'accès, de toute façon, était limité aux personnes qui avaient l'habitude de pratiquer une rivière souterraine. Mais à l'époque des pompages d'Albert Cavaillé, encore une fois, dans les années 50-55, la force motrice, c'est-à-dire les trois fils du 380, était tirée jusqu'aux pompes, qui étaient des pompes non pas immergées, mais des pompes de surface, au siphon terminal de Saint-Géry, à fil nu, sur isolateur.
Bon, autour de Saint-Géry, il y a quand même un plateau calcaire. Est-ce qu'il y a eu de la coloration des anciennes phosphatières sur l'espace occupé par le camp militaire?
Je n'ai pas connaissance de ces colorations. Nous avons tenté quelques colorations avec la Sogrea il y a une vingtaine d'années et le colorant n'est pas ressorti. C'était à l'extérieur du camp militaire, mais enfin un petit peu dans le même secteur. Le colorant n'est ressorti nulle part. Nous l'avons perdu. J'oubliais quand même d'ajouter que le tracé perte du cross grotte de Saint-Géry est connu depuis quand même très longtemps. Là, on a celui-là, on le connaît. Il a été exploré. En partie, pas en totalité, mais en partie. Celui-là est connu physiquement.
Bon, bah, j'ai l'impression que nous nous acheminons plus de demandes d'intervention. Nous acheminons vers la fin de ce premier atelier. Donc rendez-vous à partir de demain. Thierry Desjans de l'APIC nous parlera des puits. Puis nous aurons après-demain une intervention sur l'irrigation avec la VQR. Nathalie, tu seras là aussi, je crois. Et puis samedi sur la récupération de l'eau de pluie. Donc je vous remercie. Je vous invite à venir boire le verre, mais pas dehors parce qu'il pleut beaucoup. Merci de votre présence. Et
un pastis sec que l'on pourra mouiller à l'extérieur.
Et un grand merci à Michel.